tout de suite place à Sonia, l'instant M, oui. Avec un co-présentateur de choix, puisqu'il s'appelle Riss.
La mode et la déconne, c'est tout nous.
La mode, Riss c'est la mode.
Riss c'est la mode et la déconne, c'est moi. Bon, salut les amis.
Salut, salut.
Ciao, à demain. Exactement.
Le clivage, c'est bon, tout le monde, oui, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M de retour dans vos oreilles.
C'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante.
Information numérique.
Tenez sur l'écran internet.
C'est l'histoire folle d'un homme simple, un homme qui aime par-dessus tout l'encre qui tache et le bruit d'une page qui se froisse, un homme qui vend des journaux depuis plus de 30 ans. Chaque matin, Cabu et Wolinski lui achetaient la presse, ce qui lui est arrivé après l'assassinat de ses clients qu'il aimait tant, et raconté dans un petit livre généreux, précis et très finement écrit. L'occasion d'interroger, c'est ce qu'on va faire ce matin, le choix du papier face au flux de l'information numérique et télévisée, d'interroger la force de ces unes qui donnent envie d'acheter un titre auquel on n'avait pas toujours pensé et de rendre hommage au rôle du kiosquier. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Le kiosquier de Saint-Germain-des-Prés, c'est vous. À vos côtés, Anaïs Ginori, bonjour.
Bonjour.
Correspondante du quotidien italien La Repubblica. Est-ce que j'ai mis l'accent là où il fallait ?
Parfait.
La Repubblica. Voilà, vous signez ce très joli livre aux éditions Équateur et toujours à la barre de cette journée spéciale sur France Inter, Riss.
Rebonjour.
Rebonjour. Il prend goût au micro ?
Oui, oui.
Il aime ça la radio ?
Oui, plus ou moins.
On plus verra ou moins, d'accord. De allez, des papiers, du papier et des unes, envers et contre tout, ça c'est Charlie.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Doucement s'il vous plaît, doucement s'il vous plaît.
C'est un peu la bagarre mais on l'a eu quoi. J'en voulais quatre mais bon il n'y en a qu'un par personne.
Pas eu cette chance de l'avoir mais bon j'aurais essayé et de toute façon ce sera réédité.
C'était réservé déjà. Il y a une semaine, il y en a qui ont réservé depuis une semaine. Ce matin, ça m'a fait peur, j'ai trouvé une longue queue comme ça devant le kiosque. J'avais même peur d'ouvrir.
Le numéro d'après, ce jour-là, Patrick, on ne parlait que de vous, les kiosquiers et les marchands de journaux, de ces queues sans fin pour acheter du papier. Est-ce que dans vos souvenirs de marchands de journaux, plus de 30 ans que vous vendez la presse, vous en avez vu des queues comme ça ? Devant la boutique ?
Oui, enfin, on a eu des vrais mouvements de presse, de vente de presse.
Après par quels exemple, événements, par exemple ?
Bah, la mort de la princesse Grâce de Monaco, par exemple.
Ouais, ouais.
Il y a eu...
La mort de Lady Di aussi ?
La mort de Lady Di,
évidemment. Donc les morts de princesse, ça fait vendre beaucoup de papier.
Ça fait vendre beaucoup de papier. Ouais. Surtout dans les quartiers où j'étais, qui étaient des quartiers... À ce moment-là, j'avais mon kiosque, soit dans le 9e arrondissement, du côté du quartier de l'Europe...
Mm-hmm.
Qui est un quartier de bureaux où il y avait beaucoup de gens qui venaient travailler dans les bureaux. À ce ouais. moment-là, les gens venaient travailler dans les bureaux au centre de Paris.
De Paris, et puis rentrer voilà, chez eux en banlieue,
voilà,
et pas l'inverse.
Voilà, rentrer chez eux ouais. en banlieue. Et après, j'ai eu mon kiosque pendant plus d'une dizaine d'années à la porte de Clignancourt, juste à l'entrée des Puces, là-bas.
Ouais.
Donc, qui est un quartier très, très populaire, où vous avez le matin... Bon, moi, j'ouvrais le matin, il était... 3h30, 4h le matin.
Et donc là, ça y allait, le potin de star ?
Les potins de star, et puis les gens arrivaient pour aller nettoyer les bureaux des gens qui allaient travailler après, et il leur fallait, ils avaient encore les moyens à ce moment-là de s'acheter un quotidien ou de s'acheter une publication, et voilà.
On va y revenir, hein, ouais. justement, à combien coûtent ces journaux que vous vendez, puisque ouais. cette semaine, hein, le prix des journaux augmente.
Encore augmenté,
et puis
oui.
La semaine où se sont produits ces événements que nous commémorons, eh bien les journaux avaient aussi augmenté ouais. leur prix. Alors revenons, je vous propose tous les trois à cette journée du mercredi 7 janvier. Le mercredi, c'est une journée chargée pour les kiosquiers, parce que vous recevez tous les hebdos, dont le Canard enchaîné, puis vous faites les inventaires, des invendus, etc. Voilà. Ce matin-là, on vous livre 6 numéros de Charlie, hein,
voilà.
Et puis Wolinski pointe le bout de son nez.
Bah, comme Wolinski, oui, je ne sais plus si c'est Wolinski ou Cabu qui est passé en premier, mais enfin, il passait à peu de choses près, à une dizaine de minutes d'écart. À peu de choses près, à la même heure au kiosque. Et donc, bon, moi, Wolinski était un client que je connaissais mieux, parce que c'était un client du matin.
Oui.
Que Cabu, je le voyais que le mercredi, parce qu'il prenait que le Canard enchaîné chez moi le matin. Mais par contre, tous les après-midi, il prenait le Monde. Alors, quand ils étaient à Paris, c'était leur kiosque où ils prenaient leur papier, quoi.
Non, mais Wolinski, il avait un compte chez vous.
Je savais un compte,
même pas qu'il y avait encore des gens qui avaient des comptes chez les marchands de journaux.
Il a un compte chez moi. Wolinski avait un compte chez moi. Il prenait son panel de presse. C'est passé par Le Figaro, Libé, Le Monde, Le Parisien, de temps en temps L'Équipe. je suis pas certain qu'il soit, enfin, bref. Et puis, il prenait ses magazines de news, un petit magazine pour madame de temps en temps. Et puis, le petit mot sympa, toujours, comment tu vas? Bon, ça va, ouais. Bon, t'as reçu Charlie? Oui, oui, bien sûr, j'ai reçu Charlie.
Voilà.
Bon,
et puis, les deux filent à la conférence de rédaction.
Et puis après, il me disait à ce moment-là, bon, je te le prends pas, tu sais bien, puisque je vais directement à la conférence.
Je vais directement au journal. À 11h, Patrick, vous terminez votre journée, hein. Vous la commencez très, très tôt.
Oui, normalement, je la termine vers midi, midi et demi. Mais là, exceptionnellement, ce jour-là.
Vous prenez votre voiture. Voilà. Cette fameuse Clio grise, hein, qui a été la voiture la plus recherchée de France pendant quelques heures. Vous vous dirigez vers le nord de Paris, où vous habitez, et vous empruntez pas tout à fait votre trajet habituel.
Non, parce que, bon, ce jour-là, je dois faire de l'essence, donc je dévie un petit peu de mon chemin de retour pour pouvoir aller à la station essence, que là, j'ai l'habitude de faire mon essence. Je fais mon essence tranquillement, je repars de la station d'essence, je fais le tour de la place du colonel Fabien, là où il y a l'immeuble du Parti communiste, là. Et je suis arrêté au feu, et à ce moment-là, j'entends derrière moi un accrochage. Donc je lève les yeux dans mon rétroviseur, je vois qu'une petite voiture noire a un accrochage avec une voiture familiale un peu plus importante. Bon, j'y prête pas tellement attention. Puis tout d'un coup, j'entends un démarrage très rapide, on entend les pneus qui crissent, etc. Et je vois cette petite voiture noire qui sort de l'accident et qui remonte l'avenue Mathurin-Moreau en direction...
Alors c'est cette même voiture qui va vous couper la route quelques minutes après.
Quelques minutes après, à l'angle de la rue Sadi-Lecointe et de la rue
Moreau. Voilà. De cette voiture sort Chérif Kouachi, pas cagoulé, mais avec une calache en bandoulière.
Voilà, tout à fait. Voilà. Qui, moi, comme je suis kiosquier, je suis toujours dehors, j'ai toujours la portière ouverte, la fenêtre de ma portière ouverte, me met la calache au nez, puis il me dit comme ça, on a besoin de ta voiture, tu descends. Je suis descendu calmement. Il s'est installé au volant. À ce moment-là, son frère, qui tenait en joue un peu la rue de Meaux et puis la rue Sadi-Lecointe pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait pu les empêcher de continuer leur chemin, les arrêter, sort de la voiture, arrive à la hauteur de la portière côté passager. Là, il m'impressionne vraiment parce que lui, il a une arme de guerre aussi. Mais avec, en plus, je ne peux pas reconnaître exactement si c'est une roquette ou une grenade. Et son arme devient très, très imposante à ce moment-là.
Voilà, mais vous êtes resté très calme. Hein, vous avez eu des gestes très lents. Ils ont même raté leur démarrage et puis vous avez ouvert la portière de la voiture et puis vous avez récupéré Gabin.
J'ai récupéré mon chien qui était sur le siège arrière. Donc, ils sont restés très calmes parce que... Enfin, je suis resté très calme parce que j'ai eu la chance. La rue de Meaux n'est pas une rue très passante. Personne n'est venu s'intercaler, personne n'a crié au voleur ou vouloir. Bon, moi, j'ai pas voulu récupérer ma voiture parce que je me suis dit, des gens avec une arme de guerre, parce que moi, j'ai pensé à un carjacking à ce moment-là. Et je me suis dit, mais un carjacking avec des armes de guerre en plein Paris. Et puis j'ai plus pensé que c'était des jeunes qui avaient fait un mauvais coup, qui n'avaient pas d'assurance, de permis ou un truc comme ça.
Voilà. Patrick, vous vous êtes retrouvé très très vite au 36 quai des Orfèvres, interrogé par la police. Évidemment, tout s'est passé très rapidement à ce moment-là. Vous vous êtes aussi très vite retrouvé dans Paris Match, très vite retrouvé dans Le Parisien, très vite retrouvé sur Fox News.
Très très vite, parce que j'ai été au moins pendant plus de 48 ou 72 heures avant... de décider de parler à la presse.
Qu'est-ce qui
vous a
poussé ?
Parce que j'en avais pas envie. Parce que je voulais pas qu'on ressorte le côté un peu pathos de quand la presse vous interroge, vous dise « Ah, est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous avez fait ceci ? Est-ce que vous avez fait cela ?»
J'ai retrouvé les articles, Patrick.
Oui, mais...
Et il n'y a pas de photo de vous. On sent bien que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour ne pas vous mettre en avant.
Ou si on me prenait en photo, on me prenait de dos trucs comme ça. On a voulu me prendre en photo, j'ai eu un article dans Le Parisien, je suis de dos avec mon chien. Mais on ne peut pas savoir, j'ai pas voulu paraître, même Paris Match m'avait proposé de faire des photos, j'ai dit non, je n'en veux pas.
Anaïs Ginori, vous avez eu du mal à gagner la confiance de Patrick ?
C'est vrai que moi-même, tout en ayant couvert énormément la période des attentats et tout ce qui s'était passé, l'histoire de Patrick, je l'avais très peu vue, j'avais le... comme ça croiser l'histoire sur Le Parisien, je crois, mais j'avais pas plus que ça donné attention. Et puis c'est en ayant envie de retourner sur cette période de janvier et d'écrire quelque chose, mais quelque chose qui soit forcément un peu décalé, parce que c'était une histoire tellement gigantesque, je voulais trouver une petite histoire qui comme ça me porte. J'ai eu le souvenir de Patrick, enfin de ce marchand de journaux qui avait été braqué par les frères Kouachi, qui était le marchand de journaux de Camus et Wolinski. Et un jour, c'est bizarre parce que c'est tout est, on parle de l'écrit, de la presse. Et un jour, j'étais à Saint-Germain-des-Prés pour faire un papier dans Republica sur la fermeture de la Une, qui avait déjà été
la librairie, qui est juste en face de votre
kiosque, qui a été après déplacée près de l'église. Du coup, elle était en train de fermer, donc je faisais un reportage sur ça. Et je me suis dit, mais tiens, il y a ce kiosque là de Saint-Germain-des-Prés, il y avait l'histoire du kiosquier, mais peut-être qu'il a arrêté de travailler, où il est, et tout ça. Donc je suis passée et Patrick n'était pas là parce que c'était l'après-midi, il est là le matin. Et j'ai compris par les jeunes qui font partie du kiosque et qui étaient là qu'il avait, enfin, ils essayaient un peu de filtrer mon approche, ils voulaient pas trop de journalistes et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, une chose un peu à l'ancienne, j'ai pris un papier, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit une lettre à Patrick que j'ai déposée au kiosque en lui disant voilà, je vais raconter mon histoire, pourquoi je voulais le rencontrer, le fait, je savais que peut-être il avait pas envie de voir une journaliste, de reparler de ça, mais quand même je voulais voilà qu'il me donne une chance de parler.
Je retiens, c'est que vous dites je cherchais une petite histoire, et dans l'histoire de Patrick il y a une petite histoire et puis il y a une très grande histoire qui est celle des kiosques, qui est celle du papier, qui est celle de ces unes qui donnent ou pas envie d'acheter un journal. C'était quand vous êtes rentrés dans le studio, Rhys et Patrick, vous étiez tout émus de vous rencontrer parce que, comme vous a dit Patrick, on est chacun à un bout de la chaîne. Vous tenez la mine et puis moi, je tends l'exemplaire dans les mains du lecteur. Rhys, est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes demandé si Charlie deviendrait un site web, un journal numérique? Est-ce que Charlie est indissociable du papier?
Certainement. D'abord parce que vous évoquiez Cabu, je crois que Cabu n'aurait jamais accepté que Charlie devienne un journal uniquement Internet. Donc, Charlie, c'est du papier. Mais parce que quand on fait un journal papier, on fait aussi un objet. C'est un objet qu'on touche, dont on tourne les pages et on le conçoit. Même la maquette. Enfin, moi, Cabu m'a appris à maqueter des pages, mais des pages de journaux, avec des centrés, faire à gauche, faire à droite. Et c'est vrai que Internet, c'est un monde un peu froid. C'est un monde un peu glacial.
Alors, il y a ces pages, il y a ces maquettes, il y a cet objet, et puis il y a ces unes, Rhys.
Justement.
Il faut le dire, parce qu'on parle toujours de la portée de vos dessins, des polémiques qu'ils engendrent, etc. Mais il n'y a pas que ça. Une une, c'est ce qui vient accrocher d'un seul coup la conscience et le regard du lecteur dans la rue.
C'est
un contact physique.
Le choix qu'on fait pour la une, on se dit, il faut que ça soit une affiche. C'est comme une affiche presque de cinéma ou une affiche. Faut que ça happe le lecteur.
C'est pas un petit dessin. Faut-il encore pouvoir faire rentrer le lecteur dans le kiosque? C'est ça qui devient de plus en plus compliqué.
Patrick, oui, parce que les journaux ont privilégié des politiques d'abonnement pour s'assurer de la trésorerie.
Et donc, beaucoup de kiosques ont dû transformer leurs kiosques en magasins de souvenirs, de cartes postales, de ce que vous voulez. Et il faut faire presque 3 mètres avant de commencer à trouver un quotidien ou une publication dans le kiosque. Avant, vous avez passé la barrière des cartes postales, la barrière des t-shirts, la barrière des chapeaux, la barrière de ceci, la barrière de cela, etc., etc. Donc, vous faites 3 mètres avant de rentrer dans le kiosque. La une, à ce moment-là, c'est pas ça qui accroche le client. C'est pour ça que moi, je suis resté à un kiosque de papier. Je pense que c'est dans mon ADN. Moi, je vends du papier. Et je présente les unes. Le client qui rentre chez moi, il voit pratiquement toutes les unes de ce qui paraît.
Vous avez 2500 titres. Hein. 2500 titres. C'est un des kiosques les plus fournis de Paris.
Voilà, ma perception à moi du papier, ma manière d'être, ma manière de ressentir, ma manière de voir les choses. Bon, il y a certaines choses que je ne pourrais pas présenter, et il y a des choses que je présente. Parce que j'aime ce que fait ce genre de presse-là.
Alors, le numéro de Charlie, qui est en vente tous les mercredis, il est en vente 3 euros. Oui. Cette semaine, on apprend que Le Monde va se vendre 2,40 euros par jour.
Voilà.
Moi, je me suis demandé, quand j'ai lu votre histoire, Patrick, votre papa était chef de station à la RATP et votre maman était poinçonneuse.
Ouais.
Quand vous étiez petit, votre famille avait les moyens d'acheter la presse tous les jours.
C'est ce que je dis, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que si on prend juste un quotidien par jour, on rajoute à ça un magazine TV, un magazine de news, un magazine féminin, et je parle pas quelque chose pour les enfants, on arrive à 25 euros de presse par semaine. Vous multipliez par 52 semaines, ça fait entre 1300 et 1500 euros par an. 1500 euros par an, c'est plus qu'un SMIG.
C'est ça.
Quand on connaît la valeur moyenne, enfin la paye moyenne, enfin le salaire moyen d'un Français, quand on sait qu'il faut dépenser plus qu'un SMIG pour acheter de la presse,
c'est totalement inconcevable. Mais ça en dit assez long quand on voit votre parcours, voilà. Hein, d'autodidacte. Ouais. Vous êtes un homme qui a tout appris en lisant les journaux.
Bah, oui.
Donc on sent bien que l'enfant et l'adolescent que vous avez été aujourd'hui n'aurait plus les imprimés à la maison.
Ah non, j'aurais pas ce potentiel de lecture que j'ai eu. Il y a peut-être aussi le fait que ça m'a intéressé. J'ai quitté l'école très tôt, puisque j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans et 3 mois. Donc ça fait un moment déjà. Hein. Mais je me suis toujours intéressé. J'ai toujours aimé le papier, j'ai toujours aimé le lire.
Vous avez la tentation du numérique, Rhys, aujourd'hui ? Vous êtes tiraillé entre les deux ?
C'est vrai qu'on est tiraillé parce qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'on voit que le lectorat qui achète la version papier, c'est un lectorat qui vieillit. C'est pareil un peu pour les livres aussi. Et que les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes, c'est une chose un peu bizarre qu'on appelle les jeunes, bah, ils mettent pas... Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup dans les kiosques. Ils rentrent pas dans les kiosques.
Et donc, j'en ai un peu parce que j'ai les universités, des Saint-Père, etc.
Oui, c'est un quartier où,
voilà, il y a l'ENA, il y a l'école de... Enfin,
il y a encore une fac, etc.
Voilà, il y a des facs, etc. Donc je vois quelques jeunes passer, mais c'est quand même pas la majorité de ma clientèle.
Et donc les jeunes, ils voudraient lire Charlie sur leur tablette.
Mais c'est ça maintenant l'exigence, c'est que tout doit passer par la tablette et c'est infernal. On est obligé de prendre en compte ça pour leur proposer ça. Mais c'est dû aussi au fait que j'ai l'impression qu'il y a une génération de parents qui eux-mêmes se sont déjà déconnectés des journaux et n'amènent plus de journaux dans la maison. Souvent, on s'aperçoit que les jeunes qui lisent encore des journaux papier, qui achètent le journal papier, c'est parce qu'ils le voyaient à la maison. Ils voyaient l'objet à la maison. Voilà. Et quand on est un gamin et qu'on voit ses parents lire un journal, eh bien, c'est naturel, on continue d'acheter des journaux. Or, j'ai l'impression qu'il y a une génération de parents qui n'a plus acheté de journaux et les gamins qui... les gamins qui viennent après, ne savent même plus très bien ce que c'est que de rentrer dans un kiosque et puis d'acheter un journal papier.
Anaïs, j'aimerais bien dire que votre livre est un très très bel hommage à la forme écrite. Et moi j'en viens à la conclusion de votre ouvrage qui dit finalement, quand on imprime sur du papier, on lâche une bouteille à la mer et on abandonne un écrit qui date de la veille face à un flux numérique qu'on peut modifier sans cesse, sans laisser de traces.
Oui, moi je trouve que c'est ça qui est magnifique dans l'écrit, dans l'imprimé, c'est qu'on doit forcément se poser, prendre un moment de temps pour réfléchir à ce qu'on va écrire, ce qu'on va imprimer. Il y a Charlie l'a fait, mais tous les journaux le font. Nous, dans un quotidien, on le fait tous les jours. Le bouclage, c'est un moment magnifique où il faut risquer, il faut prendre un risque. Ça, on perd dans le
bouclage. C'est un moment où ça s'arrête.
Un moment de vertige, de tension. On se lance dans le vide et on sait que c'est irréversible. Alors, dans le numérique, un auteur peut modifier quelques minutes après, quelques heures après son papier. Dans un journal papier, hebdomadaire ou quotidien, on ne peut pas le faire. Et surtout, je pense que ce qui est très beau dans le papier, dans les journaux papier, c'est qu'on est à un travail très collectif. Sur Internet, on peut publier tout seul. Sur le papier, on ne peut pas publier tout seul. Enfin, en tout cas, jusqu'à il y a très longtemps, il fallait tout un certain nombre de métiers. Donc, le kiosquier à la fin de la chaîne, l'imprimeur, le typographe. Et je pense que la culture s'est fait aussi de passeurs, d'humanité. Et ça, on le perd. Rhys disait, le numérique, c'est un peu froid. Moi, en tant que journaliste, mais aussi écrivaine, je trouve, oui, le numérique, c'est un peu froid et c'est magnifique de raconter encore des métiers qui sont autour de ce vieil objet
appliqué à un journal. C'est la fin de l'émission.
Moi, je me souviens que notre professeur d'histoire au collège avait collé en 1980 des coupures de presse de l'élection de 1974. Et là, j'ai compris qu'un journal, c'était en fait un livre d'histoire. Et à partir de ce jour-là, je me suis mis à garder tous les numéros du Monde. Donc j'ai une collection du Monde.
C'est vrai ?
Parce que je me dis, c'est un livre d'histoire qui s'écrit jour après jour. Et c'est plus que simplement... Et Internet ne peut pas donner ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez avoir quand vous êtes fait un travail d'historien, vous allez sortir les vieux journaux d'il y a 30, il y a 40 ou 50, 70 ans.
Pour revenir en Chine... En Chine, ils collaient les journaux sur les murs. Et nous, quand on a des lecteurs qui viennent lire les journaux gratuitement dans nos kiosques, on les appelle les lecteurs de Chine.
Les lecteurs de Chine, alors ça sera le mot de la fin. Retournez en kiosque, retournez chez votre marchand de journaux si vous avez encore la chance d'en avoir un près de chez vous. C'est la fin de l'Instant M. Vous devez lire Le kiosquier de Charlie, Anaïs Ginori, aux éditions Équateur. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia, je fais très court. Dans Un jour en France aujourd'hui, l'engagement dans les associations après l'année 2015 si lourde. Vous pouvez nous joindre au 01 45 24 7000.
Voilà, avec vos engagements à vous juste après les infos.